cela, il était atteint de la lèpre. Jusqu'ici notre lecture. Qui était-il, Naaman? Naaman, d'après le verset que nous venons de lire, il était un commandant militaire de haut rang, un homme puissant, jouissant d'une autorité sur son armée. Il occupait sûrement un poste très important. On pourrait le comparer comme le ministre de la Justice, par exemple, de la Défense, par exemple, qui était à ce moment-là hautement estimé. Il était même considéré comme le héros national, puisqu'il a fait beaucoup d'œuvres pour sauver son peuple, pour sauver son pays en danger. On ne voit pas dans le texte quel danger ils étaient, mais en tout cas, on voit bien qu'il était un héros national. Cependant, il fut frappé par la lèpre. Les conséquences de cette maladie étaient terribles, puisque voilà, normalement, nous savons que c'est une maladie incurable. Sûrement, il devait être à l'écart des autres. Et c'est vrai que de nos jours même, guérir de cette maladie demeure difficile. Donc, à l'époque de Naaman, cela semblait impensable. La plus grande souffrance résidait donc dans la rupture des relations avec les autres. On va continuer la lecture. Verset 2. Les Syriens étaient sortis en troupes et avaient capturé une jeune fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Alors, on voit apparaître une servante originaire du pays d'Israël qui avait été emmenée captive en Syrie. Il est vrai qu'entre Israël et la Syrie, il y avait une certaine paix qui résidait, mais voilà, on ne pouvait pas empêcher des troupes de pillards d'effectuer des enlèvements dans les régions frontalières. Et c'est ainsi que cette petite fille avait été enlevée, capturée, comme esclave, et puis qui a été achetée par Naaman. Et ensuite, elle a été au service au service pour aider la maîtresse de maison de Naaman. Et elle servait aussi essentiellement aussi à table. Je continue la lecture, verset 3. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était près du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Voilà, on voit apparaître donc cette servante qui sert la maîtresse, et elle lance une phrase comme ça, un peu comme une phrase perdue. Mais on voit bien que dans cette phrase, il y a une certaine inquiétude. Elle s'inquiète pour son maître. On peut supposer qu'elle était bien traitée. Malgré son identité d'esclave, elle était bien traitée. Et c'est pour ça qu'elle s'inquiétait même pour le bien-être de son maître. Et sûrement, elle a dû entendre l'histoire du prophète Élisée, qui avait déjà réalisé plein de miracles. Donc là, elle parle d'un prophète de son pays, qui habite en Samarie, donc Élisée. Et est-ce qu'elle a vu, elle, d'elle-même, des miracles se réaliser, ou elle a juste entendu? Ça, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a entendu cette nouvelle. Et elle avait la foi de ce qu'il avait déjà été accompli par le prophète Élisée. Et puis, justement, elle lance une phrase perdue un peu comme ça, en disant que, voilà, le prophète de son pays pourrait sauver, pourrait guérir même la maladie de son maître, la lèpre, en conseillant ainsi à Naaman d'aller voir le prophète. Elle montre quand même la foi personnelle en l'Éternel. Qu'est-ce que vous pensez de cet acte de cette jeune servante? Elle a juste transmis ce qu'elle a entendu. Elle n'a pas fait grand-chose. Elle n'a pas fait du prosélytisme. C'était juste une phrase en l'air. Et comme un domino, là, ça a enchaîné des événements par la suite. Et voilà. En fait, c'est ça de l'évangélisation. Est-ce que nous le faisons, nous, Est-ce que nous évangélisons comme ça aussi? L'évangélisation, ce n'est pas juste, voilà, on va prendre 2 semaines, ou 3 semaines, 4 semaines, voire 1 mois, on va partir dans un pays lointain et parler de Dieu. Ce n'est pas ça seulement l'évangélisation. Bien sûr, certes, ça peut être un événement spécifique pour nous édifier, pour nous encourager, mais l'évangélisation, ça se passe aussi dans la vie de tous les jours. Hein? Et vous savez quoi? Ce qui est le plus difficile, c'est de parler là où nous sommes. Hein? Parce que moi, j'ai fait aussi beaucoup d'évangélisation quand j'étais jeune pasteur, même avant d'être pasteur. Je partais dans d'autres pays, en Slovaquie, en Hongrie, en Ukraine, et puis j'étais aussi dans les pays de l'Est en tout cas, à Paris, enfin voilà, j'allais dans différents endroits pour parler de Dieu. Et là, je ne connais personne. Il n'y a aucune connaissance. Non, je peux ouvrir ma bouche facilement, et puis bon, basta. Mais après, au retour à la maison, chez soi, c'est quand même difficile d'ouvrir, parce que ce sont des méconnaissances. Après, on peut penser, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Hein? Mais quand on voit cette servante, voilà, c'est dans la vie de tous les jours. Elle parle de Dieu. Elle parle de ce qu'elle croit, de ce qu'elle a expérimenté, ce qu'elle a entendu. Juste une phrase, ça suffit pour déclencher un événement. Ensuite, on voit à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, le roi de Syrie, enfin Naaman, donc, va aller voir son maître, donc le roi de Syrie, en disant que, voilà, ce qui s'est passé, ce qu'il a entendu. Et là, le roi de Syrie, très intéressé, dit à Naaman, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Voilà donc, il part en voyage, mais avant qu'il parte en Israël, déjà il envoie un émissaire pour envoyer un message en disant que voilà le roi d'Israël. Apparemment, vous avez un prophète qui peut guérir la maladie de mon serviteur, mon héros national, Naaman. Donc, vous allez le guérir. Apparemment, j'ai l'impression que le roi Syrie avait une place un peu plus supérieure que le roi d'Israël. Et le roi d'Israël avait peur, en tout cas, qu'il y ait une guerre entre la Syrie. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements, c'est vraiment un signe de désespoir, de désespérance, et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Il est convaincu que, il est certain que non, on ne peut pas guérir dans son pays la lèpre. Alors là, j'aimerais quand même vous parler de ce roi. J'ai oublié le nom de... Joram, merci. C'est le roi Joram. C'est qui Joram? C'est le fils du roi Akab et de Jézabel. Les parents sont beaucoup plus connus que Joram. Donc, vous pouvez un peu imaginer la situation du pays. Il a en fait pris l'héritage de ses parents. Et donc, il y avait de l'idolâtrie dans tout le pays. Et il y avait toujours des prophètes d'idolâtres, même s'il y avait aussi Élisée, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'idolâtrie. Et dans ce pays d'idolâtres, voilà, quelqu'un vient lui transmettre ce message. Et donc, voilà, il était perdu, déboussolé. Et donc, Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoie dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Et là, en apprenant la nouvelle, en apprenant tout ce qui se passe au sein de l'aristocratie, Élisée envoie son servant pour transmettre son message en disant que fais-le venir chez moi, je vais le guérir. Au verset 10, Élisée lui fut dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il m'en retournait et partait avec fureur. Donc, quand il arrive avec tous ses présents, il arrive avec tous ses serviteurs, l'homme de Dieu, il ne le reçoit même pas. Il envoie son disciple transmettre son message en disant, « Lave-toi cette fois dans le Jourdain. » Et vous savez que le Jourdain, je ne sais pas si vous avez fait des voyages en Israël, le Jourdain, c'est sale, pour ne pas dire dégueulasse. C'est boueux. Imaginez donc cette eau boueux. On lui demande de se laver. Alors que au sud de la France, c'était limpide. C'était vraiment agréable de nager tous les jours. Mais imaginez de se plonger dans cette eau qui semble être vraiment sale. Ça devait être un défi. En plus, je vous rappelle que c'est un héros national. C'est la personne la plus adulée dans le pays de Syrie, dans ce pays si puissant. Et il attendait vraiment la fanfare quand il arriverait. Il pensait arriver en tant que héros national et que le serviteur, c'est-à-dire le prophète de Dieu, allait venir s'agenouiller pour venir et puis le guérir, avec peut-être des incantations, etc. Non, il ne fait pas ça, il envoie juste transmettre la parole de Dieu par son serviteur. Naaman se sent insulté, blessé dans son orgueil, parce qu'il n'avait jamais été traité de cette manière-là. Et il espérait vraiment un traitement grandiose, et là, qu'est-ce qu'il voit? Vraiment une certaine mépris, en tout cas pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est en colère et il veut partir. Il veut partir. Pourquoi cet mécontentement? Parce que Naaman était concentré sur le messager qu'il vient d'être envoyé. Il était concentré sur son statut. Il était concentré sur sa situation. Situation politique, etc. Plutôt que sur la guérison. Il avait oublié le but de sa visite. Il était venu pour être guéri, pas pour recevoir l'honneur et la gloire. Et il était venu surtout en tant que malade, pécheur, ayant besoin d'aide, comme vous et moi. Nous avons tous besoin. Nous qui sommes pécheurs, malades, intérieur parfois, blessé, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin que le Seigneur touche notre cœur. Je continue la lecture, verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus devrais-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Alors il descendit et se plongea cette fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair devint alors semblable à celle d'un jeune enfant, et il fut guéri. Voilà, donc, au moment où il partait, les serviteurs de Naaman on pourrait dire les conseillers de Naaman, ont joué un rôle crucial. Ils ont évalué la situation avec objectivité et ils ont offert à leur maître un conseil très avisé. Et Naaman a écouté la voix de la raison. Et puis, il a dû réfléchir, oui, c'est vrai, j'aurais pu faire encore des choses plus difficiles. C'est très facile, en fait, de se plonger dans la rivière de Jourdain. Et Naaman, peut-être au début bien qu'hésitant, a suivi les instructions. Il s'est immergé une fois. Et là, on peut imaginer la scène. Imaginez ce grand général, officier, cet homme héros national, qui était adulé par tout le monde, qui s'immerge dans l'eau et il sort. Et là, on a l'impression de voir un homme normal. C'est-à-dire qu'avant d'entrer, il avait tous ses éloges, tous ses habits qui... comment on dit ça? Fracassants ou flamboyants, enfin, voilà, qui montrent son statut social. Et tout à coup, il enlève tout. Et là, il entre dans l'eau. Et imaginez quand l'image où il sort. Et en fait, il devient un simple être humain. Là, il doit se sentir humilié devant tous ses serviteurs. Il ne fait pas ça tout seul. Il y a quand même ses serviteurs qui sont là. Et là, les serviteurs doivent aussi le remarquer. Voilà, lui, c'est aussi comme nous. Il est un être humain. Même si, voilà, il est malade. Donc, il se plonge une fois. Et là, il ne se passe rien. Rien du tout. Deux fois, il se plonge. Rien du tout. Il fallait vraiment qu'il se plonge sept fois. Et ça demande quand même une certaine obéissance. Il aurait pu se plonger une fois, deux fois, trois fois, six fois même, en disant, eh bien, il n'y a pas d'amélioration. Hein, j'arrête maintenant. J'en ai marre. Je peux partir. Mais en fait, il a obéi jusqu'aux sept fois. Il avait peut-être la foi en lui, cette espérance, cet espoir qu'il pouvait être guéri en obéissant à la parole de ce serviteur, de ce prophète de Dieu. En fin de compte, en se plongeant cette fois, Naaman lui-même, il doit se sentir plus petit. Il a dû apprendre de l'humilité devant les hommes, mais aussi devant le Seigneur, devant Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que voilà, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et c'est ce qui s'est passé quand il s'est humilié en se plongeant dans cette rivière boueuse. Le Seigneur l'a touché. Quand il a obéi jusqu'à la fin, le Seigneur l'a touché et, qu'est-ce qu'il dit encore, sa chair devint comme semblable à celle d'un jeune enfant et il fut guéri complètement. Amen. Ce Seigneur qui a guéri en 9e siècle avant Jésus-Christ, cette œuvre, cet miracle qui a été réalisé peut aussi encore perdurer aujourd'hui, puisque le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans ma vie, dans votre vie, le Seigneur peut encore continuer à réaliser ce genre de miracle. Voilà, cette humilité, pour moi, il y a aussi de la repentance. Avant, il était un croyant, on voit bien qu'il avait les comportements d'un croyant. Et là, en se plongeant dans cette rivière, on voit vraiment cette humilité, cette repentance devant ce grand Dieu, ce grand Dieu. Et la foi aussi, et l'obéissance, tout ça qui ont permis à Naaman d'être guéri. J'aimerais vous lire un dernier verset, verset 15. Naaman retourne vers l'homme de Dieu, accompagné de toute sa suite. Et lorsqu'il arrive, il se présente devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Il reconnaît lui-même ce grand Dieu éternel, le vrai Dieu. Le vrai Dieu, le Dieu d'Élisée. Et Il dit, maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Il veut maintenant offrir une offrande, enfin plutôt un présent, un cadeau pour ce qu'il a reçu. Il est bouleversé. Il fait une confession de foi. Et il faut encore imaginer le pays. À l'époque, c'était un pays d'idolâtres. Et c'est un étranger qui vient confesser la vraie foi chrétienne. N'est-ce pas? C'est un peu marrant. Ça peut arriver aussi. Le bouleversement de Naaman, en tout cas, a été palpable. Il était libéré de son orgueil. Il était devenu plus humble. Il confesse que ce Dieu est le vrai Dieu. Il reconnaît que l'Éternel est vraiment le seul vrai Dieu. Et voilà, il accepte la souveraineté de Dieu. Cela rappelle le message de salut. Nous, en tant que pécheurs, éloignés de Dieu, nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Ce sacrifice nous lave plus blanc que la neige. Et puis l'obéissance, l'humilité et la confiance en la promesse de Dieu sont essentielles pour vivre cette transformation. C'est une intervention divine qui nous guide sur ce chemin. J'aimerais vous lire encore Ésaïe 61. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur est venu. Le Seigneur Jésus est venu pour guérir notre cœur brisé, votre cœur brisé, ton cœur brisé, pour proclamer aussi aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Le Seigneur veut vraiment nous libérer complètement de cet esclavage du péché. Il veut vraiment nous accueillir aussi dans ses bras d'amour. Et voilà, j'aimerais conclure. Nous avons vu à travers cette histoire pas mal de choses. Ce Naaman, un étranger qui était adulé, malade, apprend une histoire, ou plutôt une vérité, à travers la bouche d'une petite servante. Voilà. Et cette servante a, on pourrait dire, prêché la bonne parole. Et ça nous invite aussi à réfléchir, est-ce que nous sommes aussi des gens qui prêchent la bonne parole à ceux qui nous entourent? Et ensuite, nous pouvons voir aussi à travers le comportement de Naaman, comment nous pouvons justement s'humilier davantage le Seigneur. Je pense que le Seigneur a inspiré Élisée pour qu'il se plonge dans cette rivière de Jourdain, pour qu'il s'humilie davantage. Parce qu'on ne peut pas expérimenter le miracle si nous sommes orgueilleux. On ne peut pas expérimenter le miracle du Seigneur lorsque nous avons le péché qui est en nous. Et le Seigneur voulait, à travers ce plongeon dans la rivière de Jourdain, il voulait vraiment que Naaman se repente. De même, ce matin, le Seigneur aimerait vraiment qu'on se repente devant le Seigneur, devant lui. Et j'aimerais, avant de finir par une prière, cette prédication, vous laisser un moment de silence où nous pouvons réfléchir. Seigneur, oui, Naaman a été humilié, ou il s'est humilié devant toi en se plongeant, en étant complètement mouillé par l'eau boueuse devant tous ses serviteurs. Voilà. Et tu nous invites aussi à nous repentir, à nous humilier davantage devant toi. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ce matin? Qu'est-ce qui ne va pas en moi en ce moment? Qu'est-ce qu'il faut changer? Je vous invite à avoir un temps de silence et je vais terminer ce temps par la prière. Il est dit dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. C'est ce que Jésus a dit. Seigneur, oui, c'est ce que tu as dit. Et à travers cette parole, nous voulons encore réfléchir. Est-ce que nous ne sommes pas ceux comme ceux qui appellent ton nom tout en étant, tout en ayant une vie de compromis avec le monde? Seigneur, s'il y a des péchés à demander pardon, que vraiment, Seigneur, tu touches notre cœur, notre entendement, pour nous humilier davantage devant toi. Seigneur, tu as fait en sorte que Naaman s'humilie devant toi à travers cette plongeon. Et il a aussi pratiqué la foi qu'il avait en toi. C'est à travers cette obéissance et à travers cette confiance en toi, il a pu expérimenter un grand miracle. Et toi qui es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu peux encore réaliser ce miracle encore aujourd'hui, ici présent. Ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de guérison intérieure, ceux qui ont besoin d'être renouvelés spirituellement, ceux qui ont besoin de transformation, de façonnement, Seigneur, tu peux les toucher, tu peux nous toucher. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, guéris notre cœur brisé. Seigneur, ouvre notre vue pour voir ta gloire se manifester. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui est toujours le même, présent à nos côtés, fidèle, qui réalise ta promesse. Aide-nous vraiment à avoir la foi, l'obéissance, la confiance en toi pour expérimenter ce miracle maintenant, au nom de Jésus. Amen.
Merci Jean-Haut. Vous savez, l'Église évangélique de Vendeur ne fait pas de l'offrande tous les dimanches. Mais il y a des urnes derrière, à votre gauche, c'est pour l'association ASEV, et à votre droite, c'est pour l'Église. Mais on fait quand même une fois par mois, c'est le premier dimanche, donc aujourd'hui, on va faire passer le 2 paniers pour ce moment de l'offrande. Et pendant ce panier vient chez nous, chez vous, on va chanter le chant « Reçois ma vie ». Peut-être je vais demander à deux personnes si vous voulez bien.